Moi, je suis prêtre diocésain. J'ai été prêtre ouvrier, j'ai travaillé comme moniteur éducateur. Et depuis ma retraite, l'évêque m'a envoyé en prison. Alors, pourquoi la prison? Parce qu'on m'a appelé, tout simplement. Avant moi, c'était Jean-Claude Seguin, il y avait Vincent qui est là, et on faisait partie de l'équipe de monnerie de la prison de Saint-Martin. Et donc, j'ai pris le relais. Et quand il m'a demandé, j'avoue, je n'y attendais pas. Il m'a dit, le fait d'avoir travaillé avec des ados, avec l'aide sociale à l'enfance, ça m'avait peut-être un petit peu prédisposé. Sauf que là, je changeais de public, je passais d'ado qui était maltraité, qui était vraiment très abîmé par leur histoire dans leur famille, et qu'on était séparés pour un temps ou pour longtemps de leur famille. Et d'un seul coup, je passais avec les maltraitants et avec les gens qui étaient condamnés. Et puis j'ai découvert, et donc voilà, je suis entré en 2018, arrivé, on est quatre. Je vous présente très rapidement, la prison c'est 390 environ détenus actuellement, donc dans deux quartiers que je vous ai montrés. Et nous sommes quatre aumôniers, plus un auxiliaire qu'on est en train d'accueillir actuellement. Un auxiliaire, c'est-à-dire une personne, il ne va pas dans les cellules, il organise les temps de partage biblique. Parce qu'en fait, notre mission, avec 6 autres cultes, c'est de proposer un temps de célébration de sa foi, et puis de rencontrer les personnes. Alors, en gros, c'est ça. Donc, on a la messe le samedi, un samedi d'un côté, un samedi de l'autre. Et puis, le mercredi et le jeudi, il y a ce qu'on appelle le groupe partage public. Et c'est là qu'intervient l'auxiliaire ou un aumônier, il n'y a pas d'importance. Et là, on partage autour d'un thème de la Bible, d'une lecture de la Bible ou d'une question qui se sont posées à la messe précédente. Tout c'est très ouvert, on parle des questions des détenus et la personne qui se fait des fois aider par un bénévole propose un temps d'approfondissement de cette question et un temps de partage. La parole est vraiment aux personnes détenues. Bon, je vous note. Alors, c'est vrai que je n'ai pas été aussi concis que vous l'avez été, je n'ai pas tout noté vraiment précisément de tout ce que j'allais dire. Mais en fait, ce que j'ai découvert, après vous avez présenté un peu le décor, ce que j'ai découvert, notre rôle, donc, ce sont des entretiens individuels en cellule. L'aumônier a droit d'entrer dans les cellules. On nous donne la clé quand on rentre. J'ai compté 9 portes. J'ai recompté les portes parce qu'il y en a tellement. 9 portes et la 10e porte, c'est celle du détenu à franchir. Voilà, c'est impressionnant. La première fois qu'on ouvre une porte, c'est agréable d'ouvrir une porte, c'est pas agréable de la fermer. Et au début, je dis encore souvent, bon, excuse-moi, je ferme la porte. Hein. Oui, ferme la porte. Ça fait drôle, parce que je suis pas surveillant. Mais voilà, des petits détails comme ça, d'autres détails, quand on rentre, j'avais très peur. Pas trop des détenus, mais des surveillants. Parce que les surveillants, ils nous accueillent ni figue ni raisin. Certains nous soutiennent, puis certains nous interrogent. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bienvenue dans le panier de crabe. Ils ne vous méritent pas. Avec tout ce qu'ils ont fait, vous perdez votre temps. Voilà. On entend des choses comme ça. Et il y a les surveillants plus discrets qui, eux, font un travail vraiment d'accompagnement humain authentique. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on voit tout de suite ce qui ne va pas. On voit tout de suite les surveillants qui sont un peu rude, et puis on découvre qu'en fait, une majorité de surveillants font du bon boulot. Il m'a fallu très longtemps avant de découvrir que je faisais partie de la maison. Il faut du temps, ça fait 8 ans que j'y suis. Au début, je me sentais étranger. Quoi. On n'est pas chez nous. Je le dis souvent, j'étais aumônier de lycée, et je me suis toujours dit, on n'est pas chez nous, on est accueilli. Et on bénéficie de la loi de 1905 de séparation, et qui permet par une convention avec l'État que l'Église et les cultes puissent entrer à la prison, à l'hôpital et à l'armée. Donc je fais partie des gens à la prison, donc c'est l'administration pénitentiaire qui régit tout ce monde-là. Donc les entretiens individuels en cellule. Des condamnés de longue peine, parce que c'est une maison centrale. Les maisons centrales, il n'y en a pas beaucoup en France. Quand les médias nous parlent que les prisons sont surchargées, ce sont les maisons d'arrêt qui sont surchargées, c'est-à-dire que les gens qui sont prévenus, comme on les appelle, les prévenus. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé devant le tribunal, ils ont été condamnés, et voilà, ils effectuent leur peine. Alors leur peine, soit en centre de détention, soit en maison centrale. Et les maisons centrales, c'est au-delà de 10 ans d'incarcération. Et donc, il y a des personnes que je connais depuis 8 ans. Alors, l'avantage pour nous, aumôniers, c'est un peu paradoxal, l'avantage, c'est qu'on a le temps de rencontrer, de les connaître. Et puis, il se passe des choses dans le temps. Parce qu'au début, au début, on est tout feu tout flamme, on pense qu'on va, on vient pour apporter des choses, ça a été dit, hein. On vient pour apporter des choses, et en fait, on nous accueille, on nous reçoit, on s'aperçoit qu'on n'est pas chez vous. Et quand on vous offre, quand ils m'offrent un café, d'un seul coup, ben on s'aperçoit qu'on est chez eux et non pas chez nous. Et quand les surveillants nous rappellent la règle d'une manière un peu rude, on s'aperçoit qu'on n'est pas chez nous. Et puis peu à peu, on apprend un petit peu un peu ce langage, cette manière de faire. Quoi. Alors j'ai noté des mots. On apprend la patience. Alors en prison, on attend. Les détenus, ils attendent. Ils font une demande, ils attendent la réponse qui peut durer 6 mois, 1 an, la réponse. Ils demandent un transfert, ils peuvent attendre 2 ans pour le transfert. Ils demandent d'avoir le médecin, et des fois, c'est pas immédiat. En général, c'est rapide quand il y a vraiment avéré une urgence. Et puis, au début, on nous fait attendre devant les grilles. Et pendant le Covid, on nous faisait attendre pendant attendre devant des grilles, parce que pendant le Covid, on ne pouvait pas aller en cellule, on allait en parloir. Et donc, on demandait à la grille, on appelait le surveillant, on disait qui on voulait voir, le surveillant allait chercher la personne, et donc, tout ce temps-là, on attendait. Et des fois, le surveillant, il traînait, et puis au bout d'un quart d'heure, il arrivait, et il disait, la personne ne veut pas vous voir. Alors, on redemandait une nouvelle personne. Pendant le Covid, c'était très dur, parce qu'on pouvait passer notre temps à attendre. Et il n'y avait pas que nous qui attendions. Alors, aller en cellule, c'est extraordinaire, c'est super, parce que c'est une rencontre personnelle, individuelle. Et au début de la conversation, il parle de tout, de rien, et puis après, patience aussi, patience. Et la première chose que l'on dit aux personnes, on ne vient pas pour ce que vous avez fait, on vient pour ce que vous êtes. On vient pas. Et puis, ce que vous avez fait, vous voulez me le dire, vous me le dites. Vous ne voulez pas me le dire, vous ne me le dites pas, et je dormirai mieux ce soir. Et puis, il y en a qui me disent, tu regardes sur Internet, de toute façon, mon affaire, elle a tellement été médiatisée que. Alors, c'est vrai que j'ai fait 2 fois l'expérience d'aller sur Internet, pas plus. C'est terrible. Parce que l'histoire d'une personne qui a été criminel, et la manière dont c'est retransmis par les médias, c'est terrible, parce qu'il y a une grosse loupe, on se délecte du négatif, les gens sont traités parfois de monstres, des monstres, alors que j'ai en face de moi des personnes qui ont fait des choses monstrueuses, et maintenant, avec le temps, on peut en parler. On peut en parler de cette distinction, mais ils ont bien compris tout de suite, d'ailleurs. Je ne pourrais pas mettre 2 fois les pieds dans la même cellule si je les prenais pour des monstres et si je ne les accueillais pas comme des personnes humaines. Je crois que c'est le grand apprentissage à la prison, c'est ça. Donc on apprend la patience, l'humilité. On ne vient pas pour apporter des choses et on découvre peu à peu que c'est ceux donc, qui nous accueillent. L'humilité parce que, au fond, avec le temps, j'ai découvert que, en fait, ce sont des gens comme nous. Alors les gens, ils me disent, mais t'as pas peur d'aller en prison? Peur de quoi? On imagine, on a un fantasme sur la prison, on pense aussi aux meurtriers, aux gens monstrueux, aux actions monstrueuses, bien sûr. Et en fait, on découvre que ce sont des gens comme nous, qui nous renvoient aussi notre propre limite, notre propre faiblesse. Et on se dit avec nos collègues aumôniers que nous aussi, peut-être à un moment donné de notre vie, on aurait pu tuer quelqu'un dans une bagarre, sur la route, dans un moment de colère, incontrôlé. Et on rencontre tout ça en prison. Et puis, il y a aussi la découverte aussi d'un monde de gens qui, s'ils sont là, pour une grande majorité, beaucoup ont été abîmés dans leur enfance, abîmés dans leur jeunesse, et eux-mêmes ont été très bousculés. Et donc ça les a cassés, et ils n'ont pas toujours remonté la pente comme il aurait fallu. Et ils se sont laissés piéger par l'alcool, par des drogues, par des conduites dangereuses, envers eux-mêmes et envers les autres. Alors ce que j'ai appris aussi, c'est d'abord le respect. J'ai découvert une authenticité chez ces personnes, une fraîcheur, ça s'avère paradoxal tout ça. Coincé entre de la manipulation, de l'intérêt, une attente, Monsieur Lomnier, vous ne pouvez pas m'apporter des timbres, des enveloppes, tout ça, il y a tout ça, hein. Il y a tout ça à la prison, bien sûr. De l'intérêt, une attente non dite, il y en a même qui me demandent de signer des attestations qu'on voit qu'il y en a à la messe, quoi. Si ça pouvait les aider à gagner quelques mois de prison. Alors ça ne joue pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils doivent rendre des comptes auprès de la justice, auprès du juge d'application des peines, comme quoi ils se comportent bien, ils travaillent, ils ne se bagarrent pas, ils payent les parties civiles, parce qu'ils sont condamnés à un enfermement, évidemment, mais ils sont condamnés souvent, la plupart du temps, à payer des sommes importantes aux parties civiles, c'est-à-dire les membres qui ont été spoliés par leur acte. C'est souvent la famille. Et sinon, c'est les familles touchées par l'acte. S'ils ont tué une personne, ben le conjoint, les enfants, des fois le beau-frère, la belle-sœur et tout, se portent partie civile. À chaque fois, ils demandent une indemnité. Il y en a un qui m'a raconté un jour, j'ai été condamné à 20 000 euros de partie civile, à payer 20 000 euros. Et puis un tel s'est rajouté, il me dit, je suis rendu à 300 000 euros à avoir payé. Quoi. Alors je trouve que ce système est très, très vicieux, quoi. Et pas très honnête, quoi. Ben voilà, il y a tout ça. Une authenticité, je disais, parce que, en fait, très vite, ils ne peuvent pas se cacher, ils se doutent de ce qu'on a fait, même si on ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont fait, mais ils savent que ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. La plupart, ils ne s'aiment pas. Et ce qui les tient, c'est l'amour de leur famille, quand ils ont une famille qui les soutient, il y en a qui sont seuls, qui sont complètement coupés de leur famille. Ce qui les tient, c'est aussi c'est le quotidien, un boulot, des activités culturelles, des apprentissages, ils prennent des cours de français, de calcul. Il y en a qui apprennent à lire et écrire pour la première fois de leur vie. Ce qui est tous les gens du voyage, en général, ils ne savent pas lire et écrire, et puis ils apprennent en prison. Enfin, d'un seul coup, ils se sentent beaucoup plus valorisés. Il y a tout ça qui les tient. Et puis nos rencontres. Alors les rencontres, c'est des moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien au départ, et puis il se passe toujours quelque chose. Et puis moi j'écoute. Chacun de nous, on fait tous pareil, on écoute. Et après une heure d'écoute, au moment de partir, il faut que j'aille voir une autre personne. Donc, merci d'être passé. Merci pour tout ce que tu m'as dit, alors que j'ai rien dit. C'est-à-dire que l'écoute les ouvre à la compréhension intime, intérieure. Et c'est formidable, l'écoute, parce que ça permet plein de choses. Et on découvre ça, évidemment. Et puis les temps de célébration. Alors les temps de célébration, c'est les temps forts. Au cours de chaque célébration, il y a le partage, les questions, les réflexions qui complètent le rituel, ma parole explicative. Leur parole devient quelque chose, des questions qui nous déroutent. Et leur parole devient une nourriture pour celles et ceux qui sont présents. Parce qu'à la célébration, il y a 2-3 personnes de la paroisse de l'île de Ré qui viennent à la prison. Et quand on sort, on dit, oh, si on pouvait vivre ça dans les paroisses. Ah, si on pouvait vivre ça dans les paroisses. Moi, je l'entends, ça, en permanence. Parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, de contact. Il y a Pâques, il y avait Michael de Mézé, le curé de l'île de Ré, qui devient vicaire général. Il a regardé avec un séminariste, il y a toute l'équipe de Montpellier là. Des fois, et puis il y a des membres, il y a un peu plus nombreux de la paroisse. Et là, il se passe des choses, et à chaque fois, c'est. Quand on ressort, quand tout le monde ressort, c'est un enthousiasme. Et les détenus sont très heureux. Est-ce qu'ils ne se sentent pas coupés depuis qu'ils savent qu'ils font partie de la paroisse de l'île Dorée? Il y a des liens très forts avec la paroisse. Certains qui sont très doués pour écrire des poèmes, des prières, c'est tout ça, c'est affiché dans l'église de Saint-Martin, si vous y passez. Il y a un tableau pour montrer ce lien avec la prison. La prison, c'est partie de la paroisse de l'île Dorée. Donc les célébrations, ils sont très fortes. Quoi. Alors, les relations avec le personnel, j'en ai parlé. Les relations avec la direction, c'est souvent très conforme, c'est très convenu. Il y a des rappels à l'ordre des fois, quand on ne demande pas toujours une autorisation pour rentrer. Pour rentrer, des fois, qu'est-ce que j'avais rentré? Je m'étais fait un peu taper sur les doigts. Il n'y a pas des choses qui prennent la conséquence, mais il faut tout déclarer. Donc, il faut faire très attentif à ça. Alors, celle qui me nourrit, la rencontre de l'autre m'oblige à rester toujours concentré. Parfois, durant 2 heures, 3 heures, dans l'après-midi. C'est sur les après-midi, j'y vais 2 fois par semaine, concentré pour écouter, entendre ce qui m'est dit. Et puis, celui qui me parle, il est heureux de m'accueillir, il est content de me faire part un peu des nouvelles de sa famille et de sa santé quand elle a des problèmes de santé, etc. Et ce qui me nourrit, c'est quand un détenu me dit, et un détenu qui nous dit à tous quand on vient à la messe, vous êtes des anges. Il nous traite d'anges. Formidable d'être un ange. Celui qui me dit merci pour tout ce que vous m'avez dit alors que j'ai rien dit, je vous l'ai dit déjà. Celui qui vient me serrer la main à la fin de la messe pour me dire merci, tu sais, ça fait du bien. Celui qui m'offre un café en arrivant, celui qui m'a préparé le café avant que j'arrive, celui qui me dispute de n'être pas venu plus tôt. Celui aussi qui me dit quand j'ouvre sa porte de cellule, pas aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir, et que je vois sur son visage qu'il ne va pas bien. Alors je respecte. Et c'est convenu entre nous. Parce que dès le départ, je lui dis, t'es libre de m'accueillir ou pas. T'es pas bien, tu m'accueilles pas. C'est pas un problème, je reviendrai plus tard. Et donc cette liberté-là, c'est important. Qu'il le sache et que moi, je sois à l'aise avec ça. Et le baiser à la communion. Alors là, il ne faut pas le rater. On ne peut pas l'éviter. Ils ont besoin de se serrer la main, de nous serrer la main et de se serrer la main entre eux. Il y a un musulman qui vient de temps en temps à la messe. Il ne communie pas, mais il s'approche en baissant la tête pour se faire bénir. Et puis à la fin de la messe, il prend ma main et il l'embrasse. Des petits gestes. La parole de Dieu partagée avec un groupe, avec un détenu, quand à travers une question inattendue, je découvre une porte ouverte sur un texte, sur le texte que je n'avais pas ouverte. Par exemple, un détenu en plein partage biblique crie sa souffrance d'avoir été rejeté depuis l'enfance, notamment par sa famille, car homosexuel et même par un autre détenu qui vient à l'aumônerie et qui le rejette. Et ce détenu, un jour, en plein groupe biblique, il se lève et il dit « Pardon de t'avoir blessé, j'ai compris que tu étais en souffrance. » Jamais plus je ne dirai des choses pareilles. Voilà. On vit aussi des moments comme ça, de pardon collectif. La souffrance de l'autre l'avait rejoint. Un détenu à la préparation de son baptême et après la lecture de l'évangile de la femme adultère dit spontanément, c'est comme pour moi. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Ma femme m'a trompé. Quand je m'en suis aperçu, j'ai voulu la tuer. Puis je me suis dit que je l'aimais quand même. Alors j'ai décidé de ne pas la tuer. Il a dit ça comme ça. C'était sa compréhension, l'actualisation de la lecture de l'évangile de la Samaritaine. Mm-hmm. Voilà. Ce qui me nourrit, c'est tout ça. Il y a bien d'autres choses encore dont je voudrais bien vous parler, mais je crois que le temps passe vite. J'ai pris quelques références dans l'évangile, mais bon, vous connaissez. Hein. Peut-être la première référence qui vient à l'idée, c'est la plongée de Jésus dans l'eau du baptême, baptisé par Jean-Baptiste, dans Matthieu au chapitre 3. Parce que Jésus plonge dans notre pâte humaine. Et c'est ça qui vient. Dieu vient parmi nous en plongeant dans notre humanité. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué, ça. Et puis, après les tentations au désert, cette parole de Jésus au chapitre 4 de Matthieu, « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. » Alors, il y a tout le malentendu dans l'évangile, on pense que Jésus va prendre le pouvoir, il va détrôner Hérode. Eh bien non. Il y a le malentendu, c'est pas politique, c'est spirituel. Et puis l'appel des quatre premiers disciples, et puis Jésus qui enseigne et guérit. Et en fait, et puis ça, jusqu'aux béatitudes, tout le grand chapitre 5 de Matthieu, les béatitudes. Et cette parole de Matthieu 25, tout ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je pense que c'est cette parole aussi qui me porte. Je reviens sur les béatitudes où il y a ce heureux, heureux, heureux. Il y a un théologien d'origine juive qui a traduit « heureux » par « en marche ». Littéralement, on peut aussi traduire par « en marche ». Donc, ils sont en marche, hein, ça a été dit tout à l'heure, solidarité migrant, les gens qui sont en marche, à l'hospitalité, les malades qui sont en marche, qui nous accueillent, qui accueillent ce qu'ils sont. Voilà, tout ça, c'est une force incroyable. Et puis j'ai peut-être arrêté là, je sais pas, j'en suis au bout du temps. Qu'est-ce que m'apporte cette mission? Ah oui, il y a une parole qui va peut-être vous choquer. Mais plusieurs détenus nous disent « La prison m'a sauvé la vie. » Pour la première fois de ma vie, je suis face à moi-même. La chance d'être tout seul dans une cellule. Je dis, tu es dans une cellule comme un moine. Les moines, leur chambre, ils appellent des cellules. Vous êtes dans une cellule. Et pour la première fois de la vie, ils sont face à eux-mêmes. Et d'un seul coup, ils comprennent. Ils pensent vraiment par eux-mêmes. Ils comprennent, ils analysent. Ils se remettent en cause. Et quand ils disent, la prison m'a sauvé la vie, c'est tout ça que ça veut dire. Et certains ont fait des remontées incroyables. Alors, il y a 2 ans, on a baptisé 2 personnes qui ont cheminé ensemble. Et celui qui disait « j'ai voulu tuer ma femme et puis j'ai changé d'avis », il a été baptisé ce jour. C'est pendant la préparation de son baptême. Il a dit ça. Alors ce qu'elle m'apporte cette mission, ben, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Je suis très ému quand j'entends des paroles, des situations comme ça, très touchantes. Un jour, je rentre dans une cellule, le détenu, il avait le poing en sang, il avait tapé sur les murs, il avait cassé sa glace, il avait cassé des choses, il pleurait et tout. Alors je lui dis, c'est pas le bon moment, je m'en vais. Il dit, non, reste. Et il s'est mis à pleurer. Il est resté 10 minutes, un quart d'heure à pleurer, et j'étais à côté, sans bouger, et j'attendais. Puis je lui dis, vas-y, pleure, ça fait du bien, pleure, vas-y. Et puis après, il a arrêté de pleurer, il a commencé à parler, pourquoi il était pas bien. Il y a une chose qu'on ne connaît pas, c'est que l'enfermement, au bout d'un moment, c'est... les gens y crisent, quoi. Ils ne sont pas bien. Ça ne s'explique pas par des mots. Alors ils tapent sur un détenu, ils tapent sur un surveillant, ils mettent le feu à leur cellule, ils font des choses terribles, parce qu'ils en ont marre d'être enfermés. Et ce jour-là, il faisait sa crise, quoi. Et il m'a expliqué tout ça, et on a parlé, et quand je suis reparti, il m'a dit « Ah, merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. » Voilà.